toutes les personnes qui sont intéressées par l'exposé, les personnes qui sont intéressées par l'exposé sur la naissance, la fabrication et la conception de la pilule abortive RU486 peuvent s'installer sur les gradins au fond du chapiteau.
Oui, bonjour tout le monde. Ben voilà, je vous présente deux chercheurs, deux scientifiques, Georges Teutsch et André Ullmann. L'un est chimiste, Georges Teutsch, l'autre est médecin clinique, c'est ça ? Hein, ils travaillaient tous les deux chez Roussel-Uclave, qui est un grand laboratoire de fabrication de médicaments. Et j'y travaillais aussi, mais moi je suis pas scientifique, j'étais dactylo. Voilà, mais militante. Voilà, alors ils vont vous raconter les problèmes qu'ils ont eus vis-à-vis de la direction, mais aussi vis-à-vis de la société pour imposer, pardon, oh là là, je suis désolée, hein, pour imposer cette molécule, hein, parce que vous verrez que la direction s'y est opposée dans une certaine mesure et qu'ils ont finalement renoncé à la commercialiser quand ils ont cédé devant le lobby des pro-life, c'est-à-dire anti-avortement, aux États-Unis, qui menaçaient de boycotter leurs produits s'ils commercialisaient cette pilule abortive. Voilà. Et puis d'autre part, tous les intégristes catholiques de tout poil qui venaient devant l'usine quand nous traitaient d'assassins, quand la molécule est sortie. Voilà, ils vont vous raconter tout ça. Si après il y a un débat, moi je peux dire quelques mots un petit peu sur la lutte que ça a représenté pour les femmes, cette période-là, où nous avons lutté pour la contraception, pour l'avortement. Hein, je pourrais ajouter que la direction qui se prétendait, le slogan de la direction, c'était au service de la santé, et qu'ils nous refusaient même une salle dans l'entreprise quand nous avons voulu faire venir un médecin du MLAC, du Mouvement pour la Liberté de l'Avortement et de la Contraception, qui voulait simplement expliquer au personnel les différentes méthodes contraceptives et qu'est-ce que c'était l'avortement. Voilà, ben je passe la parole à Georges, c'est ça.
C'est ce qu'il faut voir.
Ah bon,
voilà. Bonjour, hein. Voilà. Bonjour tout le monde, c'est bon. Voilà. Ceux qui sont sur le côté ont peut-être intérêt, s'ils veulent voir les diapositives, à se mettre vers le centre, sinon vous ne verrez rien. Voilà. Voilà, écoutez, voilà, on m'a sollicité pour vous parler de l'historique du RU486, ou plus précisément le RU38486 initialement, qui est le principe actif de la pilule abortive, la bifégine, hein, qui est toujours commercialisée, et dont André Ullmann va vous parler tout à l'heure, demi-heure. Voilà. Pour les plus anciens d'entre vous se rappelleront peut-être que dans 1982, les quelques manchettes de journaux sur la pilule que toutes les femmes attendaient, et qui aurait été RU486, qui a été mise au point par un chercheur français. On verra de quoi il s'agit dans tout le temps. Voilà, alors toute cette histoire, elle a commencé en 1975, donc exactement il y a 40 ans, ça fait un bail, et dans l'entreprise pharmaceutique Roussel-Uclaf, qui était implantée à Romainville. Donc vous voyez un des laboratoires de recherche chimique, début des années 70. À l'époque, à Romainville, il y avait à peu près 3500 personnes qui travaillaient, dont 800 en recherche et développement, plus la fabrication, etc. Et maintenant, il n'y a plus personne. Hein, voilà, c'est le sort un peu de... Et donc, je vais vous parler un petit peu de chimie. C'est difficile de faire un exposé sans parler de chimie. Et cette entreprise, qui avait été fondée en 1920, ensuite... s'est spécialisé dans la chimie des stéroïdes. Qu'est-ce que c'est qu'un stéroïde? Tout le monde en connaît au moins un, c'est le cholestérol, hein, dont certains en ont un peu trop, et la formule du cholestérol est là-haut. Vous voyez? C'est donc 4 cycles accolés, 3 cycles à 6 et 1 cycle à 5. Et ça, c'est un peu le squelette stéroïde. Pour ceux qui n'ont pas fait de chimie, vous imaginez simplement un mécano avec des fils de fer ou bien un Lego, hein, avec une partie déjà un peu élaborée, hein, auquel on peut à laquelle on peut rajouter des appendices, hein, c'est comme une oxygène carbonée ou une fonction alcool, d'où le nom de cholestérol. Et là, donc le premier domaine dans lequel Roussel-Duclaf s'était spécialisé, c'est la production de cortisone, ici. Vous voyez, on a toujours ce même cycle, hein, au centre, avec des fonctions différentes, et il produisait la cortisone par hémisynthèse, c'est-à-dire aussi semi-synthèse, à partir de l'acide cholique qu'on trouve dans la bile de bœuf, donc les déchets d'abattoir. Et par une longue série de réactions, une vingtaine, ici c'est très résumé, il transformait cet acide cholique en cortisone, qui à l'époque était dans les années 50, le médicament miracle, qui traitait les allergies, les rhumatismes, etc. Toutes sortes d'inflammations. Dans les années 60, Roussel-Duclaf s'est aussi attaqué à la synthèse totale, cette fois-ci, de stéroïdes, plutôt de 19-norstéroïdes. Vous retrouvez le même motif ici, et en partant de molécules chimiques nettement plus simples. Mais on construit ce système-là. Et ça s'appelle des 19-norstéroïdes parce qu'ici, on a un hydrogène à la place d'un méthyle. Bon, à la suite de ça, donc ils ont produit aussi des stéroïdes en vrac qu'ils vendaient à d'autres firmes pharmaceutiques, tout comme la cortisone. Mais ils ont développé des produits originaux, dont un des plus connus était l'acétate de trimbolone, ici, qui est en fait un androgène, mais anabolisant, qui permettait de faire gagner du poids musculaire aux bovins destinés aux abattoirs. Alors on revient aux abattoirs. Ça a été utilisé en France, puis aux États-Unis, en Amérique du Sud, voilà, pour les bovins. Et début des années 70, ils avaient essayé de développer ce produit-là, la gestrinone, comme contraceptif hebdomadaire. Et malheureusement, les résultats cliniques n'ont pas été à la hauteur et ce programme a été complètement arrêté en 1974 et le département d'endocrinologie qui s'occupait de ça a été complètement démantelé à l'époque. Voilà. Et c'est à peu près à l'époque où je me suis retrouvé chez Roussel-Duclaf. Et je me suis intéressé, à côté de mon sujet de recherche principal, officiel, à un intermédiaire de synthèse qu'on trouve là, vous avez toujours, et qui avait été utilisé par mes collègues Nedelec et Gasque pour justement réintroduire à cet endroit-là un méthyle et pour faire une nouvelle synthèse de cortisone. Voilà. Mais ça me paraissait très intéressant pour essayer d'introduire autre chose qu'un méthyle. Et voilà, donc j'ai essayé d'introduire un gros groupement, un cycle à 6, insaturé. Je vais l'introduire ici, et s'est aperçu que le produit majoritaire n'avait rien du tout, hein, c'est simplement un petit, comme je l'appelle, un réarrangement, et un produit très minoritaire où ce phényl a été introduit dans une position, dans cette position-là, qu'on appelle la position numéro 11, d'après la nomenclature des stéroïdes, et 11 bêta, parce que c'est au-dessus du plan de la molécule. Et ça m'a paru tout de suite très intéressant dans la mesure où, jusqu'alors, on ne savait pas introduire, modifier cette position des stéroïdes. Vous dites, tiens, ben, c'est très intéressant, on pourrait regarder ce que ça peut donner au niveau des activités biologiques. Donc j'en ai parlé à mon supérieur hiérarchique à l'époque, qui était Robert Bucourt, à qui je voudrais rendre hommage ici, parce que c'était vraiment quelqu'un, un grand chimiste et quelqu'un qui était très très ouvert, et enfin il en a parlé à la direction des recherches de Roussel-Duclaf. Ils vont dire non, c'est fini, on ne veut plus entendre parler d'hormones sexuelles, parce que ça on pouvait s'attendre à ce que ce soit actif dans le domaine des hormones sexuelles. Et il est revenu en me disant, ben écoutez, Georges, soyez satisfait d'avoir découvert une nouvelle réaction chimique, mais on ne peut pas aller plus loin. Alors, on a eu vraiment un coup de chance, parce qu'à l'époque, Dans l'autre sens. À l'époque, voilà. Alors, je me suis inquiété également de savoir si on avait pouvait faire des molécules, si elles pouvaient être testées. Et en fait, il restait un test, un screening sur les cinq classes d'hormones astéroïdiennes qui avaient été mises au point par Jean-Pierre Reynaud et Daniel Philibert avant que on ne dissolve le département d'endocrinologie. Donc ce test existait, mais il ne servait plus à rien. Et juste un mot sur les récepteurs, les hormones en général fonctionnent en se fixant sur un récepteur. Et les récepteurs, ce sont des protéines à l'intérieur des cellules cibles, et ces protéines fixent spécifiquement une hormone, par exemple l'estradiol, l'hormone femelle. Hein, et quand l'hormone est fixée sur le récepteur change de forme. On dit un changement de conformation. C'est comme un robot transformeur, hein, quand on lui met la bonne clé, hop, il change de forme et il est capable de faire autre chose. Et donc cette protéine, ce récepteur, il est capable ensuite de se fixer sur l'ADN et puis d'activer un gène et d'initier la synthèse d'une autre protéine. Dans le cas de l'estradiol, il va synthétiser le récepteur de la progestérone. Voilà, donc j'en reste là pour l'instant. Et voilà, ça c'est simplement je vais passer rapidement parce qu'à l'époque aussi, ils s'intéressaient, avant que ce soit arrêté, à des anti-hormones, dont le tamoxifène, dont certains d'entre vous ont entendu parler, qui sert toujours dans le traitement des cancers du sein au moment des dépendants, et le flutamide pour le cancer de la prostate. Et donc à l'époque, à un moment, il était envisagé que Roussel du Clap s'intéresse à ce genre de choses, mais après ils ont arrêté. Et donc il y a eu une demande de stage qui tombait à point. On a eu un coup de fil de l'Université Laval à Québec demandant s'ils pouvaient envoyer un chimiste pour se former à la chimie des stéroïdes. Et j'en ai profité pour faire un petit chantage, c'est la fin à bougie dans mon laboratoire. Je dis, si moi je suis d'accord pour le prendre, à la condition qu'il travaille sur cette série, comme vous avez dit, d'arrêter. Et finalement, cette proposition a été acceptée dans la mesure où le stagiaire n'était pas payé par Roussel du Clap, mais par la province du Québec. Voilà. Et donc, ce stagiaire Alain Bélanger est arrivé en septembre 1975. Il est resté jusqu'en juin 1976. Et quand il est arrivé, je lui avais préparé son programme de travail et j'avais visé trois séries de produits. Une première ici qui était susceptible d'interagir avec le récepteur de la progestérone, l'autre qui était plus susceptible d'interagir avec le récepteur des androgènes ou des hormones mâles, et la troisième avec les estrogènes, le récepteur des estrogènes, l'hormone femelle. Voilà. Et donc, en 9 mois, il a synthétisé une quinzaine de produits, et on a eu les résultats une fois qu'il était parti. Alors là, ne vous inquiétez pas trop, les résultats n'étaient pas inintéressants. On peut voir que pour certains substituants en 11, bien particuliers, il y avait une forte augmentation de l'affinité de ces molécules pour le récepteur de la progestérone, PR. Hein. Donc on passe de 34% à 535% de la progestérone, ce qui est important. Et aussi pour des substituants très volumineux, aussi là on a une augmentation de 10 fois. Et peut-être plus intéressant à l'époque était le fait que certaines de ces molécules se fixaient également sur le récepteur des glucocorticoïdes, c'est-à-dire de la cortisone, du cortisol. Et ça, c'était tout à fait inédit à l'époque qu'un 19-nord stéroïde, donc il n'y avait pas le méthyl ici, etc., puis qu'il n'y avait pas les bonnes substitutions par ailleurs, se fixait sur ce récepteur des glucocorticoïdes. Dans le domaine j'appellerais des androgènes, il n'y avait rien de particulièrement remarquable. Et finalement, dans le domaine des estrogènes, donc avec le noyau A aromatique, ce qu'on appelle avec un saturé ici, spot quand on a R égale H ici, c'est l'éthylestradiol, hein, qui est un puissant estrogène. Là, on s'est aperçu qu'il y avait aussi une augmentation de l'affinité pour ce récepteur, d'une part. Mais peut-être plus intéressant, pour ce produit-là, on a une affinité pour le récepteur de la progestérone, un plus. Et comme on savait qu'à l'époque, les contraceptifs, c'était une combinaison entre estrogène et progestatif, on avait fantasmé en disant, tiens, on pourrait imaginer de trouver une molécule qui ait le bon rapport entre la fixation sur le récepteur estrogène et sur le récepteur de la progestérone pour conduire à un nouveau type de contraceptif. Et on en a parlé donc lors de deux colloques scientifiques internes à Roussey-Duclaf, un à Paris, l'autre à Francfort, et puis on nous a dit non, c'est fini, on avait demandé qu'on teste ces produits in vivo cette fois-ci, parce que sur la fixation sur le récepteur à elle seule ne veut rien dire, hein, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Et elle dit non, c'est fini, on ne veut plus rien, on ne veut plus entendre parler des hormones sexuelles. On avait présenté ça comme un nouveau type d'animal, hein, dont on aimerait bien regarder les caractéristiques. Voilà, et donc ça semblait cette fois clore toute cette affaire. Donc c'était en fin 76, début 77. Et puis on s'est raccroché à un autre biais. Comme je vous l'ai dit, certaines de ces molécules se fixaient sur le récepteur de la cortisone, hein, des glucocorticoïdes. Vous voyez le RU25055 ici, 135% de la dexaméthasone qui est un très fort puissant corticoïde, même à 270%, 300%. Et là aussi, concours de circonstances, dans la littérature plutôt pharmacologique, on commençait à parler du rôle des corticoïdes ou des cortisoniques dans le stress, puisque ce sont des molécules dans les états de stress, il y a une montée de cortisol, et les gens commençaient à dire ah ben si on trouvait un anti-cortisonique, ça pourrait peut-être servir dans le traitement des effets secondaires du stress, etc. Enfin, il y avait pas mal de fantasmes à l'époque sur ça, hein. Même sur des cas de rajeunissement, puisque plus tard que dans certains cas, un anti-glucocorticoïde pouvait s'opposer à la mort programmée des cellules. Voilà. Et donc il s'est trouvé aussi concours de circonstances. Il y a deux de nos collègues qui faisaient une étude plus théorique sur les glucocorticoïdes, et ils étaient en relation avec le laboratoire du professeur Hebel à Strasbourg, et qui avaient un test in vitro. Ah, il y a quelque chose qui manque, mais ça ne fait rien. Pouvait déterminer en éprouvette simplement si une molécule avait une activité de type cortisonique en induisant une enzyme qui s'appelle la tyrosine aminotransférase. Et donc nous avons proposé d'envoyer notre produit à Strasbourg, qui a été testé par le 25055, par Gisèle Beck, et a dit oh, il n'a pas d'activité type cortisonique. Par contre, il s'opposait à l'activité de la cortisone ou de la dexaméthasone sur ce test-là. Donc c'était la première indication que ce 25055 avait une activité anti-glucocorticoïde, ou anti-cortisonique, si vous préférez. Et ce résultat a été confirmé donc chez Roussey-Duclaf en pharmacologie, montrait que deux de nos produits s'opposaient in vivo, cette fois-ci, chez le rat, sur une autre enzyme, la tryptophane pyrrolase, qui dégrade le tryptophane. Il s'opposait à l'action de la dexaméthasone sur ce test, mais à des doses quand même très importantes, à 100 mg kilo, hein, ce qui est important au niveau pharmacologique. Donc on avait quand même un certain nombre d'éléments qu'on tenait quelque chose, un petit bout de petite découverte dans le domaine des anti-glucocorticoïdes. Autre coïncidence à ce moment-là, parce que j'avais, après de nos fameux colloques, j'avais proposé qu'on étudie d'autres stéroïdes, des stéroïdes non hormonaux, en fait des dérivés des acides biliaires, pour faire un screening assez général dessus. Et donc, Jean-Mathieu, qui s'occupait beaucoup des relations avec l'université et la CNRS, nous a convoqué à un groupe de réflexion prospective en disant « Proposez-nous un certain nombre de sujets de recherche impliquant les stéroïdes, mais excluant toujours la sphère sexuelle. » Et donc, on a proposé un certain nombre de sujets de recherche, dont il y en a un qui a été accepté, qui s'appelait les stéroïdes parabiliaires, mais nous avions aussi proposé un sujet anti-glucocorticoïde basé sur le fait que, sur nos premiers résultats préliminaires avec le 25-0-55. Voilà, et dans ce groupe de réflexion, il y avait donc le professeur Derek Barton, prix Nobel de chimie, qui était à l'époque directeur de l'Institut des substances naturelles à Gif-sur-Yvette, et le professeur Beaulieu, spécialiste de l'endocrinologie à l'INSERM au Kremlin-Bicêtre. Voilà, et outre, il y avait donc Roger Derat, responsable de la pharmacologie, Daniel Philibert, mon collègue en biochimie, et moi-même comme chimiste. Et donc, on s'est réunis deux, trois fois, et au bout, le sujet anti-glucocorticoïde a été accepté comme sujet officiel. Et donc, c'est dès en février 1980 qu'on a pu, donc c'était fin 79, en février 80 qu'on a pu refaire la synthèse chimique, cette fois-ci avec dans un sujet officiel, on a mis du bon monde dessus, et on a synthétisé des produits, dont très rapidement le RU38486, hein, donc il y a ce grand substituant en 11 bêta, hein, avec 486, un méthyl ici. Voilà. Et très rapidement, sur le premier test, on s'est aperçu qu'on avait un certain nombre de molécules qui étaient très actives. Tout à l'heure, vous avez vu que les activités étaient d'ordre de 50% à 100 mg kilo. Là, on a donc tombé sur des produits qui avaient des activités des 10 mg kilo, voire 1 mg kilo, le 38486. Voilà. Et puis, ça a été confirmé sur plusieurs autres tests, hein, en pharmacologie chez Roussel Claff. Et voilà, donc on savait maintenant qu'on avait véritablement le premier anti-glucocorticoïde connu, anticortisonique connu. Et c'est là que nous en avons informé notre consultant, professeur Étienne-Émile Beaulieu, qui a dit « Oh, il faut aller très vite chez l'homme, pour un essai chez l'homme, chez les volontaires sains, pour voir si ça se confirme chez l'homme. » Voilà, et donc la pharmacologie et la chimie ont travaillé d'arrache-pied pour constituer un dossier nécessaire pour cet premier essai clinique. Alors, il y avait quand même quelque chose qui me chipotait, c'est que le RU38486, non seulement se fixait sur le récepteur des glucocorticoïdes, mais aussi sur celui de la progestérone. Et on ne savait pas à quoi ça correspondait. Et je m'en suis ouvert au professeur Beaulieu, qui m'a dit, on ne s'en occupe pas, tout ce qu'on veut savoir, si le produit a une activité anticortisonique chez l'homme. Alors, néanmoins, j'ai demandé à mon ami Daniel Philibert, j'ai dit, il faut quand même que tu fasses le test de Cloberg, qui permet de savoir si le produit est un progestatif ou pas. Et il l'a fait. Alors, voilà comment ça se passe. On prend des lapines impubères auxquelles on injecte de l'estradiol et puis on prélève la muqueuse, un peu bout de muqueuse utérine, et puis on regarde au microscope ce que ça donne. Donc, estradiol tout seul, ça donne cette image-là. Par contre, si après l'injection d'estradiol, on injecte de la progestérone, on s'aperçoit qu'il y a une forte prolifération de cette muqueuse utérine qui se prépare à l'implantation éventuelle d'un œuf. Et quand, après l'estradiol, on donne du RU38486, on s'aperçoit qu'il ne se passe rien. C'est comme si on n'avait rien mis. Et quand j'ai eu ce résultat, j'ai tout de suite dit, ça y est, c'est comme l'anti-glucocorticoïde, le produit est un anti-progestérone. Et on était juste en train de terminer, de boucler la rédaction du brevet, pour cette série de produits, et j'ai fait remettre anti-progestérone ainsi que les utilisations potentielles dans le contrôle de la fertilité pour ces produits-là. Et c'est seulement après coup que l'expérience complémentaire a été faite, c'est-à-dire que on a donné après l'estradiol de la progestérone et du RU486, et c'est là qu'on s'est aperçu que le RU486 s'opposait à l'effet de la progestérone. Et donc on savait qu'on avait aussi le premier anti-progestérone connu. Voilà. Et en même temps, des essais de tératogénèse, de toxicité tératogénèse, voir si les fœtus étaient mal formés après l'administration du produit, ils sont aperçus que le produit était abortif chez les souris et les rats, à 10 mg kilo. Et c'est seulement quelques semaines après que nous en avons informé le professeur Beaulieu, qui a tout de suite évidemment compris, comme nous, l'intérêt de la chose. Il s'est précipité chez le PDG de la boîte, Edouard Sakiz, c'est-à-dire en sursoit à l'essai clinique anti-glucocorticoïde et on va faire un essai anti-progestérone. On ne savait pas très bien ce qu'il allait faire, et en fait, il a contacté le docteur Hermann à l'hôpital cantonal de Genève, qui, on a su un petit peu après, qui a utilisé le produit dans un essai d'interruption volontaire de grossesse sur 9 femmes qui avaient demandé un IVG, et les 9 premiers résultats étaient 100% d'avortement. Il y a eu d'autres femmes qui ont été incluses. Je pense que André vous en dira un mot dans quelques instants, et où ça peut se passer un petit peu moins bien. Voilà. Et donc, dans la foulée, Beaulieu, alors ça c'est la même chose sur la précédente, a fait une communication à l'Académie des sciences début de 1982. Dans laquelle on figure en bonne position. Il y avait le PDG de la boîte qui s'était opposé pendant plusieurs années à ce genre de recherche. Et ensuite, dans la foulée, Beaulieu a convoqué une conférence de presse dans laquelle il a annoncé le produit, et c'est comme ça qu'il est devenu l'homme qui a découvert le RU486. Voilà. Ça, effectivement, on n'est pas tout à fait d'accord avec ce qu'il avait. Il n'avait rien à voir avec la découverte des RU486. Par contre, on sait que si Beaulieu n'avait pas été là, cet essai clinique n'aurait jamais été fait et la pilule abortive n'aurait pas vu le jour. Rousseluclaf n'aurait jamais pris l'initiative tout seul de faire cet essai. Voilà. Et je pense que maintenant, André va vous parler de la suite de cette aventure. Et je voudrais juste mettre les noms des personnes qui, à un moment donné, ont participé à ce projet, dans l'ordre chronologique, au niveau de la chimie et au niveau de la biochimie et de la pharmacologie. Voilà. J'en ai terminé. Voilà, merci.
Alors, merci Georges. Alors, je vais continuer. Je vais passer de la pharmacologie et la chimie à la clinique, et je vais essayer de vous montrer comment cette découverte de Rousseluclaf par les chercheurs de Rousseluclaf a finalement eu une vie extrêmement difficile et qui a failli, je dirais, ne pas aller jusqu'au bout, et finalement est allé jusqu'au bout. Alors, effectivement, donc en 1982, comme l'a dit Georges, eh bien une étude est faite à Genève et qui montre déjà beaucoup de choses. Il y avait 12 femmes et 9 avaient une interruption complète de leur grossesse après avoir reçu une dose de RU486 et 3, ça n'avait pas fonctionné correctement, c'est-à-dire que l'interruption était incomplète. Alors en fait, ça nous a appris beaucoup de choses et ça nous a permis de commencer à faire le développement de la molécule dont j'ai eu l'honneur de m'occuper à partir de 85 jusqu'à, je dirais, maintenant pratiquement. Et en fait, en 85, le docteur Sakiz, donc le patron de Rousseluclaf, m'a demandé de m'occuper de cette molécule, et j'ai fait le développement complet d'une molécule, je dirais, standard dans l'industrie pharmaceutique, C'est-à-dire qu'on a défini la dose qui nous paraissait optimale du produit, et puis on a montré la sécurité et l'efficacité de cette molécule. Alors malheureusement, je vais vous apporter des diapos, mais ma clé ne fonctionne pas, mais c'est pas grave, et je vais vous expliquer ça sans diapos. Je vous aurais montré quelques tracts et quelques documents, mais on pourra peut-être les revoir une autre fois. Donc ce qui s'est passé, c'est que donc, nous avons de 85 à 88 fait le développement clinique de cette molécule, et nous avons montré plusieurs choses. Premièrement, qu'il fallait combiner cette molécule avec l'administration d'une prostaglandine, c'est-à-dire qu'il fallait ajouter une petite dose d'une molécule qui augmentait la contractilité de l'utérus. Moyennant quoi, avec cette dose et avec ce schéma thérapeutique, on était capable d'induire plus de 96% d'efficacité. C'est-à-dire que les femmes qui utilisaient cette méthode avaient 96 chances sur 100 d'avoir une interruption complète de grossesse, et les 4% restants nécessitaient d'avoir un geste chirurgical. Mais il faut savoir que à cet âge de grossesse, c'était pour des grossesses extrêmement débutantes, les méthodes chirurgicales ne sont pas plus efficaces. Donc, une méthode extrêmement efficace. Et donc, nous avons fait le développement de cette molécule essentiellement en France, et mais également à l'étranger, dans pas mal de pays, ainsi qu'aux États-Unis. Et ça nous a amené, vers les années 88, à une compréhension complète de la molécule, de son mode d'action, de son schéma thérapeutique, et nous avons été prêts à déposer un dossier de demande de mise sur le marché. Alors, plusieurs choses qui sont assez intéressantes dans cette histoire, c'est que d'abord, vers 1987, on s'est rendu compte que je pouvais travailler, j'avais une toute petite équipe, mais que notre actionnaire majoritaire, Hoechst, était de plus en plus nerveux par rapport à cette molécule, et on se disait qu'un jour ou l'autre, ils allaient nous tomber dessus et nous interdire de travailler. Ce qui fait qu'à partir de 87, en France, j'ai créé ce que je dirais une certaine irréversibilité, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gynécologues qui voulaient avoir la molécule. Et comme vous a montré Georges, il y avait un nombre énorme de médias, on avait une pression médiatique très forte sur nous, et tout le monde voulait avoir accès à la molécule. Et finalement, j'ai décidé que si les gynécologues voulaient avoir la molécule, on allait leur donner, et la seule chose qu'on leur demanderait, c'est que si on leur donnait, ils devaient assister à une formation, et deuxièmement, nous rendre des documents attestant de la bonne utilisation du produit, des cahiers d'observation pour chaque personne qui aurait été incluse. De la sorte, entre 87 et 88, à peu près tous les gynécologues français avaient accès à la molécule, et on a fait une publication de 16 000 cas, ce qui est énorme en termes de développement pharmaceutique. Eh bien, nous en a pris de faire ça, puisque vers le milieu 88, brusquement, il y a eu un raptus anxieux qui s'est passé chez Sakis, qui a convoqué son management et qui a fait voter comme ça, à l'arraché, une résolution disant qu'il fallait retirer le RU486 des essais cliniques et l'arrêter. Et donc, voyant ça, d'abord, j'étais assez content que les gynécologues l'utilisent en France, parce que ça paraissait extrêmement difficile de pouvoir le retirer. Et surtout, ça correspondait à un moment où il y a un congrès de gynéco international à Rio. Et il se trouve que là, j'ai eu de nouveau l'aide de Beaulieu, qui là encore nous a beaucoup aidé à ce sujet, puisqu'il a organisé une énorme pétition internationale s'adressant à Sakis, lui demandant de ne pas retirer le produit. Et en fin de compte, en 88, c'est remonté jusqu'au ministre de la Santé, qui était Monsieur Claude Évin, et Claude Évin a donné l'ordre à Roussel Uclaf de redéposer son dossier au niveau de l'agence du médicament et de ne pas arrêter le produit. De sorte que finalement, en 88, on a eu notre autorisation de mise sur le marché en France. Alors ça, c'est la première chose, c'est le premier avatar, ça n'a pas été très simple. Et puis en parallèle, on avait commencé à faire le développement de la molécule en Chine. Les Chinois ont sans doute extrêmement intéressés par le produit, et on avait depuis 85 mis en place un développement complet. C'était Roussel qui le faisait, c'était une équipe, j'avais un directeur médical qui s'en occupait en Chine et qui faisait ce développement. Et finalement, on en parlait, et les gens de Hoechst rigolaient doucement en disant de toute façon, ils n'auront jamais leur AMM en Chine. Ne voit-il pas qu'en 88, en même temps qu'on a la France, eh bien, on a l'autorisation de mise sur le marché en Chine. Et c'était quand même assez unique. C'était quand même, il n'y a pas beaucoup de firmes françaises qui avaient des autorisations de mise sur le marché de produits en Chine. Et quelques semaines après cette autorisation de mise sur le marché, eh bien, on reçoit la première commande à livrer de RU486 pour le marché chinois, de la part du gouvernement chinois. Et là, eux se tombent dessus en disant, mais absolument hors de question d'honorer cette commande. Et donc, c'est comme ça que Roussel Uclaf a perdu le marché chinois, puisque les Chinois ne se les ont pas fait dire deux fois, ont refusé de les livrer, et donc ils ont fait des copies. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il se vend 20 millions de boîtes de RU486 par an en Chine, marché qu'évidemment, on a complètement raté, ce qui était d'autant plus frustrant que vers les années 89-90, il était question chez Roussel de fermer l'usine qui fabriquait le RU486 à Berthollet, dans le Puy-de-Dôme, et que, il était évident que ça n'avait pas le marché chinois, ben, ça n'allait pas favoriser la production de RU486 en Chine. Alors ça, c'est la première série d'avatars. Deuxième histoire qui arrive avec le RU486, qui est intéressante, c'est que on travaillait depuis le début aux États-Unis. Il y avait beaucoup d'études qui étaient faites aux États-Unis. Et vers les années 90, eh bien, il y avait une forte demande à la part de la communauté médicale aux États-Unis pour que Roussel mette son produit sur le marché là-bas. Et en fait, Hoechst était totalement opposé à ce qu'on aille aux États-Unis par crainte de boycott, et surtout en fait parce que Hoechst était profondément opposé au développement du RU486. De sorte que en 92, première décision du nouveau président nouvellement élu des États-Unis, Clinton, qui envoie une lettre au patron de Hoechst, monsieur Hilger, en disant je veux que vous ameniez le RU486 en Chine, aux États-Unis. Pas banal d'avoir un président des États-Unis qui demande à une firme pharmaceutique de bien vouloir mettre son produit sur le marché. Et les gens de Hoechst disent, bah non, pas question, on fait pas. Et ils trouvent une solution qui a été extrêmement dure pour les gens de Roussel, puisqu'ils ont décidé de donner les droits du RU486 pour les États-Unis à un organisme non public américain, Population Currency. De sorte que nous avons été obligés de transmettre notre savoir-faire, nos dossiers et tout ce qu'on savait sur la molécule à cet organisme américain, Population Council, et en particulier, Population Council devait se charger de fabriquer la molécule, puisque Roussel ne voulait pas la fabriquer pour le territoire américain. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Population Council a identifié une firme hongroise, Gédéon Richter, qui était censée fabriquer le RU486 pour le marché américain. Et donc, je me souviens, dans les années 92, d'une réunion avec les chimistes, les pharmacologues, de Roussel et de Richter, qui était notre grand concurrent partout ailleurs dans le monde, au cours de laquelle nous avons dû donner tous nos secrets de fabrication, tous nos procédés de fabrication, etc., à Gédéon Richter pour le marché américain. Il se trouve qu'en fait, Richter n'a jamais fabriqué pour les États-Unis et finalement s'est défaussé, et le produit américain a finalement été fabriqué en Chine par les Chinois, ou d'ailleurs, il est toujours fabriqué en Chine pour le marché américain. Alors voilà, ça c'était la deuxième histoire que je voulais vous raconter, c'est que Roussel, Hoechst, a perdu délibérément le marché américain, simplement parce que, eh bien, le président de Hoechst avait décidé que il était contre l'avortement, qu'on ne développerait pas la molécule. Alors, si on revient aux années 90-92, eh bien, on était en France sur le marché, on avait péniblement obtenu l'intéressant de ce marché en Grande-Bretagne et en Suède, et puis à partir des années 92, Hoechst nous avait totalement interdit d'aller chercher des autorisations de mise sur le marché ailleurs, de sorte que le produit végétait, et il a végété jusqu'aux années 97. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ces années-là, il y a eu un certain nombre de fusions. Je dirais que Hoechst Roussel a fusionné avec une société américaine qui s'appelait Marion, aux États-Unis, pour former la société Hoechst Marion Roussel. Et Hoechst Marion Roussel était encore moins intéressé par le RU486 dans son portefeuille de produits, et de nouveau, les choses n'avançaient pas beaucoup. Et puis finalement, il y a eu une grande fusion qui a été Hoechst Marion Roussel et Rhône-Poulenc-Rorer, 97, et cette fusion a donné lieu à la création d'une société qui s'est appelée Aventis. Mais la seule condition pour que la fusion se fasse, c'est qu'il fallait que le RU 426 soit sorti du périmètre de la société. Il ne fallait plus dans la société, et donc la direction de Marion Roussel a trouvé une solution très pratique. Il a donné le produit au docteur Sakiz, qui, comme va raconter Georges, n'était quand même pas initialement un grand fan de la molécule, et lui a créé une société. Elle a créé une société, ça veut dire qu'elle lui a donné les droits, tout le stock de produits, tous les contrats commerciaux, toute la fabrication, et Sakiz est donc parti avec le RU-486. Évidemment, c'est lui qui en a été l'unique bénéficiaire, ou en tout cas officiellement l'unique bénéficiaire, parce qu'il est très probable qu'un certain nombre de gens de Hux et de Roussel ont bénéficié indirectement de cette société. Et ils ont donc créé la société Excelgene, qui, à partir de 97, a eu la responsabilité du produit, et là encore d'ailleurs aujourd'hui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Excelgene a continué à vendre le produit, fabriquer et vendre le produit, et a étendu un certain nombre d'autorisations de mise sur le marché à quelques pays européens, l'Afrique du Sud et deux ou trois autres pays. Mais finalement, la société Excelgene n'a pas fait grand-chose, sinon que de récupérer les dividendes du produit, et la société s'est développée et a existé jusqu'à vers 2007, date à laquelle le docteur Sakiz a décidé de vendre cette société. Je me rappelle qu'il avait reçu gratuitement la molécule de Hux-Marin-Roussel, et il a vendu la société pour un prix assez élevé. Et cette société a été rachetée par Nordic, qui est une autre société, mais cette fois-ci tout à fait classique. Et Nordic a donc récupéré Excelgene, et c'est Nordic aujourd'hui qui commercialise le RU-486. Donc voilà un tout petit peu l'histoire à grands traits de cette molécule. Ce que je veux vous dire, c'est que ça n'est pas fini cette histoire, puisqu'en fait, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas encore accès au RU-486. Je pense notamment au Canada, au Brésil, au Japon. Et donc, moi, je continue à m'intéresser à ce sujet et j'ai créé une société qui, justement, s'occupe de le développer pour ces pays et surtout essayer de le mettre à disposition dans un certain nombre de pays en voie de développement. Car, comme vous pouvez imaginer, c'est évidemment une énorme découverte médicale et qui peut être bénéficiaire dans les pays, qui peut être très utile aux femmes dans les pays en voie de développement. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire à grands traits. L'histoire d'une molécule qui, je crois, est vraiment une immense découverte sur le plan scientifique, médical. Cette découverte a été quelque peu, je dirais, kidnappée par un certain nombre de personnes. Si vous ouvrez les journaux, Roussel et Claf a disparu en tant qu'inventeur du RU-486 qui est attribué au professeur Émile Beaulieu. Encore une fois, il n'est pas question de diminuer ses mérites, et je suis d'accord avec Georges que s'il n'avait pas été là, la molécule n'aurait pas vu le jour, mais néanmoins, il n'en est pas l'inventeur. Et deuxièmement, une molécule sacrifiée, je dirais, sur l'autel, à la fois, je dirais, d'un certain nombre de considérations capitalistiques, mais je dirais surtout plus sur des considérations idéologiques, un certain nombre de personnes, de dirigeants, étant contre l'utilisation de méthodes d'avortement et qui ont fait tout pour bloquer cette mise sur le marché. Je crois qu'aujourd'hui, encore une fois, dans les diapositives que vous avez, il y avait une quarantaine de pays qui ont accès aux produits aujourd'hui. Donc il en reste, il y a 190 pays, je crois, répertoriés. Donc il reste encore pas mal de pays qui pourraient en bénéficier. Je pense que l'histoire n'est pas finie en ce sens que le sens de l'histoire, c'est que le produit sera utilisé de plus en plus. Et simplement, je crois que c'était bien de pouvoir rendre hommage ici à un certain nombre de personnes sans qui cette invention n'aurait pas pu voir le jour. Voilà. Et je crois que Georges et moi, on est prêts à répondre à des questions sur cette histoire assez extraordinaire.
On vous retire le micro provisoirement avant de vous le rendre. Quelqu'un a-t-il encore envie d'avoir des éclaircissements sur ces véritables tribulations? Le mot était juste, hein. Vraiment, on voit qu'il y a des gens qui, tout seuls, démocratiquement, décident pour toute la société.
Moi, c'est pas tellement sur toutes les tribulations, c'est sur la différence entre la pilule anticonceptionnelle et la pilule abortive. Qu'est-ce qui fait que ça a été vraiment très 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 différent et que vous avez que ça a l'air d'être une découverte très évidemment très importante pour nous les femmes, mais qu'est-ce qui fait qu'au niveau scientifique justement c'était très différent? Parce que j'y connais rien en chimie, je vois pas.
Alors, je crois que c'est une excellente question. La pilule anticonceptionnelle, ce sont des quantités d'estrogène et de progestatif, donc les hormones sexuelles de base, qui, données à forte dose, permettent de bloquer l'ovulation. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'ovulation, il ne peut pas y avoir de contraception. Il ne peut pas y avoir fertilisation, mais il ne peut pas en avoir. Donc ça, c'est la base de la pilule contraceptive classique. Et incidemment, quand Georges a mentionné, Roussel vendait en vrac des estrogènes et des progestatifs, c'était sa spécialité. Et en fait, à l'époque, je crois même encore maintenant, plus ou moins, on vendait à peu près 80% des stéroïdes, donc des estrogènes et progestatifs, qui rentraient dans la composition des pilules contraceptives dans le monde, alors que Roussel ne faisait pas sa propre pilule. Ça, c'est la pilule contraceptive. Et puis, il y a la pilule abortive, donc le RU486, mécanisme complètement différent, donc comme l'a dit Georges, ça bloque la progestérone. Et donc, quand ça bloque la progestérone, c'est l'hormone de la grossesse. S'il n'y a pas de progestérone, une grossesse ne peut pas se développer. Le fœtus ne peut pas grandir. Et donc, si vous bloquez la progestérone, eh bien, vous allez avoir un arrêt de la grossesse. Donc, c'est fondamentalement différent. C'est-à-dire que la pilule contraceptive, elle évite la fécondation, tandis que la pilule abortive type RU486 permet l'interruption, l'arrêt d'une grossesse une fois qu'elle a débuté. Donc c'est totalement différent comme mécanisme d'action.
Alors oui, effectivement, ça a été peut-être un coup de génie de Beaulieu de faire le premier essai clinique comme abortif, parce qu'on pouvait avoir le résultat immédiatement sur un petit nombre de femmes, parce qu'on pouvait très bien envisager d'utiliser le RU486 comme inducteur de règles, un truc comme ça, mais ça demandait peut-être un nombre de femmes beaucoup plus important. Et donc c'est pour ça que, en fait, c'est le premier essai clinique qui a déterminé le sort du RU486 comme abortif.
Bonjour, merci pour cette conférence. J'aurais deux petites questions. La première, on a vu qu'il n'y avait pas énormément, une quarantaine de pays, vous avez dit, qui ont actuellement accès à cette pilule. Certains grands pays comme la Chine y ont accès. Est-ce que l'Inde, par exemple, qui compte quasiment 1 milliard d'habitants, y a accès? Ça, c'était la première question. Et la seconde, c'est, on en est toujours à 96%, c'est ça, d'efficacité. Sinon, ça demande un acte chirurgical. Et l'acte chirurgical, je voulais savoir, dans les cas justement où il y en a besoin, c'est... Enfin, sur le moment ou c'est plus tard voilà, merci.
Alors oui, donc l'Inde fabrique son propre produit, donc les femmes indiennes ont accès au RU486, ça c'est le premier point. Le deuxième point concernant l'efficacité, 96%, c'est le maximum qu'on pourra jamais faire. En médecine, il n'y a jamais 100%, et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de conditions de femmes chez qui l'expulsion n'est pas tout à fait complète. Et donc, elle peut avoir des fragments d'œufs qui restent à l'intérieur de l'utérus et qui font qu'elles saignent et donc il faut leur faire un geste chirurgical. Ce geste chirurgical, en général, c'est une aspiration utérine. Et cette aspiration utérine, elle se fait souvent entre la semaine et le mois qui suit l'administration du RU486.
Oui, c'est moi, j'ai pas tout entendu, mais pourquoi est-ce qu'on a fait les tests en premier, entre guillemets, sur des femmes en Suisse? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu une seule clinique, un seul hôpital en France? Je finis pas la question.
La réponse est très claire, c'est qu'en fait, Étienne Beaulieu était très proche de, d'un gynécologue de Genève, le professeur Hermann, Walter Hermann, et qu'il a trouvé plus simple d'aller le voir directement, en demandant de faire l'étude. Évidemment, on aurait pu le faire en France, ou évidemment, on aurait pu le faire partout, mais c'était comme ça. Et il n'y avait pas d'autre explication à ça.
Je me demandais s'il y avait une histoire de religion, comme en Suisse, c'est pas pareil. Et Monsieur Serkis, c'est pourquoi? Alors, les dirigeants, officiellement, ils disaient qu'ils ne voulaient pas développer ce qu'ils disaient officiellement ou oralement.
Il n'y a pas d'histoire de religion, c'est simplement que, en l'occurrence, comme je disais, c'était une question d'amitié entre Beaulieu et Hermann, qui se connaissaient depuis très longtemps. Donc, c'est ça, c'était la première raison pour laquelle, enfin, la raison pour laquelle l'étude a eu lieu en Suisse. Alors, en revanche, le management ne voulait pas en entendre parler, mais le management, il a été débordé par le fait que, comme l'a montré Tutsch, le jour où il y a eu cette étude, les résultats de l'étude, il y a eu une campagne de presse organisée par Beaulieu, et qui fait que l'ensemble des médias de la planète s'est intéressé au problème et qu'il devenait difficile aux dirigeants de Roussel à l'époque de s'opposer à un progrès qui était évidemment intéressant et qui intéressait l'ensemble de la communauté médicale, scientifique, mondiale. Et donc ils ne pouvaient plus, ils étaient coincés, et c'est pour ça que le produit a démarré. Car c'est tout à fait vrai que s'il n'y avait pas eu ce genre de campagne de presse, les résultats, ils auraient été étouffés, on n'en aurait plus jamais reparlé. Ben, pourquoi ils ont donné après ? Ben parce qu'ils voulaient se débarrasser du produit dans la société. Ils n'en voulaient pas. Parce qu'ils étaient contre. Ils étaient anti-avortement. Ils étaient contre l'avortement, quoi. Ils étaient contre l'avortement. Il y avait, ça, c'est la condition de base, c'est qu'en fait, c'était ça. Et ils habillaient ça, en général, de conditions économiques, en disant, oui, mais on va se faire boycotter par les organisations Laissez-les-vivre aux États-Unis, par exemple, et c'est pour ça qu'on peut pas se permettre d'avoir ce type d'activité. Mais en fait, fondamentalement, ils étaient contre l'avortement, ils étaient contre l'avortement aussi bien chez eux que chez beaucoup de gens chez Roussel. Religieux. Religieux.
Ils disaient pas ouvertement que c'était parce qu'ils étaient religieux. Le PDG de Hoechst, à ce moment-là, était un intégriste catholique. Vous pensez bien qu'il voulait pas que sa boîte produise une pilule abortive. Et puis en plus, il y avait la menace du boycott par tous les lobbies, tous les réactionnaires des États-Unis, qui est le plus gros marché pour les laboratoires pharmaceutiques, de boycotter les produits Roussel. Enfin, à l'époque, c'était Roussel, mais ce sont des lobbies puissants. Mais parallèlement, il y avait aussi le lobby des femmes, qui, elles, voulaient que cette pilule soit mise sur le marché partout, parce que c'est quand même un progrès pour les femmes de pouvoir avorter comme ça. Et la boîte a choisi de céder au lobby pro-life, anti-avortement, par trouille du boycott des sanctions financières. Mais ce sont aussi des réactionnaires. Et moi, je l'ai raconté. Nous, on arrivait au boulot le matin. Il y a eu des intégristes des beaux quartiers, des intégristes catholiques des beaux quartiers de Paris qui venaient nous traiter d'assassins, qui nous distribuaient des tracts. Il en a un, je crois, Monsieur Ullmann, mais nous, bon. Et d'ailleurs, ça a soulevé je peux vous dire que les salariés de la boîte, les travailleurs de la boîte, nous, là, on réagissait. Quand il y avait tous ces fiefés réactionnaires qui venaient nous traiter d'assassins parce qu'on était en faveur de l'avortement, parce que nous, les filles, mais pas seulement, notre génération, on a lutté quand même pour la contraception et l'avortement. Hein, et vous savez, Roussel Uclaf nous refusait même un local quand on faisait venir un médecin du MLAC pour expliquer tout simplement aux femmes et aux travailleurs qui souhaitaient l'écouter quelles étaient les différentes méthodes contraceptives, qu'est-ce que c'était qu'un avortement, etc., etc. C'est le combat d'une génération d'hommes et de femmes. Hein, et nous, à Roussel, on a fait adhérer des centaines et des centaines de travailleuses au mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Parce que vous savez ce que ça représentait pour les femmes de ma génération et même un petit peu plus. S'il y en a autant qui ont rejoint le MLAC, c'est parce que il y avait au moins une femme sur deux qui avait connu un avortement, clandestin, un avortement interdit à l'époque. Hein, parce que c'était comme ça. Alors il fallait se trouver des adresses. Il y avait des étudiants en médecine qui le faisaient. Les dirigeants de Roussel comme des grands laboratoires. Hein, vous savez, il y a qu'un argument qui les touche. Hein, c'est les dividendes. Hein, c'est les profits. Et il y avait une grosse menace de tous les réactionnaires de boycotter les produits Roussel. Mais par contre. Les chercheurs et le produit avaient des alliés, c'était les travailleurs, c'était nous, hein, et puis les scientifiques, bien sûr, parce que ça a été un progrès pour la collectivité scientifique.
J'ai une question pour André. André, tu as dit que, en fait, il y a ça peut être un bon produit dans les pays en voie de développement. Quelle est aujourd'hui l'infrastructure nécessaire pour administrer ces produits? Est-ce que dans certains pays, on a encore des problèmes pour cela?
Merci. Donc ça, c'est une question extrêmement importante qu'on s'est tout de suite beaucoup posée. C'est en fait, finalement, est-ce que la structure médicale des pays en voie de développement permettait l'usage d'une méthode médicale qui au début n'était pas si simple puisqu'en fait il fallait suivre les patientes, il fallait faire des échographies, etc. Mais en fait on a fait faire des études par des ONG et qui ont montré que non seulement c'était pas difficile, et encore plus c'était souhaitable, c'était même probablement plus facile d'utiliser une méthode médicale, même pas parfaitement suivie, que de laisser des femmes avoir des interruptions chirurgicales mal faites. Et en fait, finalement, on sait, en partant des études en Inde, au Vietnam, en Tunisie, que dans des pays où l'infrastructure médicale est pas extraordinaire, et bien ça marche parfaitement bien, c'est tout à fait utilisable.
Oui, bonjour. J'aurais aimé savoir ce que vous pensiez de l'administration du produit actuellement en France. D'un point de vue purement empirique, j'ai eu des échos comme vous, finalement, les gens, il y a peut-être une banalisation du fait que le produit est simple, on va dire, à prendre d'un point de vue médical et que du coup, les personnes ne sont peut-être pas suivies ou accompagnées comme il le faut. J'aurais aimé avoir votre avis sur le sujet.
Alors ça, c'est un point qu'on a beaucoup entendu aussi. C'était, vous allez avoir l'interruption médicale de grossesse, ça va banaliser, on va faire n'importe quoi. Alors, pour répondre à votre question, d'abord les chiffres. Il n'y a pas d'augmentation significative des IVG en France. Non, mais c'est déjà important. Et la deuxième chose, rien n'indique aujourd'hui que les femmes qui utilisent la méthode, en particulier maintenant on peut l'utiliser au cabinet en ville, sont moins bien suivies. Et il n'y a absolument aucun élément, notamment en termes de suivi pharmacovigilance ou d'études épidémiologiques, qui montrent qu'il peut y avoir un quelconque dérapage dans l'utilisation des produits. Donc je crois qu'il est parfaitement... Il est banalisé, ça c'est vrai, mais il est parfaitement utilisé.
Oui, en fait, je m'excuse, je n'ai peut-être pas été très claire. Je parlais surtout du comportement des personnels soignants vis-à-vis donc des personnes qui viennent et de l'accueil qui est fait. En fait.
Vous savez que le problème en France, c'est qu'il y a de moins en moins de centres d'orthogénie. Ça, c'est clair. C'est un vrai gros problème. Et donc, effectivement, de toute façon, on essaye de plus en plus de diffuser la méthode, l'intervention médicale de grossesse en ville. Car je crois que c'est la seule manière que les femmes soient bien prises en charge et pour pallier, je dirais, aux carences du système public dans le domaine.
J'ai
je sais pas. Est-ce que vous suivez les données chiffrées? Est-ce qu'on sait la proportion maintenant de pilules vendues directement en pharmacie sans voir aucun médecin, puisque comme apparemment les mineurs peuvent aller en pharmacie et se faire délivrer facilement sans voir de médecin ERU, et la proportion fait prescrit par des médecins de ville, des généralistes de ville, donc il n'y a pas besoin d'aller en clinique, et la proportion d'avortement où il reste encore une manœuvre chirurgicale. Merci.
Alors attendez, il y a plusieurs choses. La première chose, on ne parle pas de la pilule du lendemain, on parle de la pilule abortive. La pilule du lendemain, c'est autre chose. Mais le R-46, c'est pas la pilule du lendemain. C'est une pilule abortive et on ne peut pas en disposer sans prescription. Ça, c'est... Ah oui, même le mineur. Il faut absolument que ce soit dans des circuits bien définis. Alors, deuxièmement, en France, la moitié des IVG, à peu près 100 000 IVG, sont faites avec le RU486, donc sont des IVG médicales. Et sur ces 100 000 IVG, il y a à peu près 20 000 qui sont faites dans les cabinets médicaux. Donc, parce que c'est très difficile, parce qu'en fait, il faut former progressivement les cabinets médicaux. C'est pas très simple à faire, ça nécessite qu'ils aient un training, et ça nécessite un certain nombre de conditions administratives. Donc en gros, c'est quand même, ça reste encore une méthode qui est faite dans les hôpitaux, mais aujourd'hui ça se fait de jour, c'est assez simple. Hein. Mais encore une fois, ne confondez pas le RU-406 pilule abortive avec la pilule du lendemain qui n'a strictement rien à voir. La pilule du lendemain s'achète en pharmacie? Non, c'est à l'hôpital. C'est à l'hôpital ou dans les cabinets des médecins. On ne l'achète pas en pharmacie. Le produit, il est stocké dans les pharmacies, mais ce sont les médecins qui l'achètent, pas les patientes. Oui, ça se fait livrer par le pharmacien. C'est remboursé, hein.
Et financièrement, une mineure qui n'a pas d'argent en pratique, comment elle fait? Et à propos de la confidentialité, les courriers chez elle et les feuilles de sécu?
L'IVG est remboursé à 100% en France, chez les mineurs comme chez les majeurs. Donc, personne ne paye. C'est totalement remboursé, elle ne paye pas, elle ne charge. Ah oui, c'est pris en charge à 100%.
Oui, je voudrais simplement faire remarquer que c'est André qui a lancé la pilule du lendemain et la gratuité pour les lycéennes, les jeunes filles mineures. Voilà. Donc il sait de quoi il parle. Il développe un produit qui est un petit frère du RU486 pour la contraception d'urgence comme pilule du lendemain. Il pourra peut-être en dire.
Mais ça, c'est une autre affaire, hein. C'est une autre histoire parallèle à celle du R-46. C'est vrai que j'ai développé un produit, donc je vais donner son nom, je n'ai pas le droit, mais je vais le donner, qui s'appelle Norlevo, dont je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent, et qui a été effectivement la première pilule du lendemain, qui n'est pas du R-46, disponible chez les mineurs. Et deuxièmement, on vient d'en développer une autre, qui s'appelle Ella, et qui est également maintenant disponible sans prescription chez Pharmacena. Là, pour le coup, on peut l'acheter et elle est gratuite chez les mineurs.
Oui, je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a une interférence au niveau de la fécondation, de la fertilité, pardon, après avoir pris ce traitement? Est-ce qu'il y a des modifications dans les cycles postérieurs ou pas?
Oui, bien sûr, c'est des points qu'on a regardés de façon très attentive. Donc, aucun effet du RU486 sur la fertilité ultérieure. Et même, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une patiente qui a utilisé la méthode pour un temps de grossesse peut être enceinte exactement avant même le retour des règles sur le cycle d'après. D'où d'ailleurs la nécessité pour les femmes qui ont pris le RU486 de prendre une contraception très très rapide. Donc, aucun effet sur la fertilité.
moi, je veux juste dire un mot. Là, on a les scientifiques qui ont mis au point ces produits, qui sont un grand progrès scientifique pour les femmes. Mais la lutte pour la contraception et l'avortement, évidemment, ça continue à être une lutte, parce qu'il y a des millions et des millions de femmes à travers le monde qui ne peuvent pas en disposer. Hein? Alors, nous, en France, on a mené ce combat, on a la chance de pouvoir disposer de ces produits, mais c'est un combat perpétuel. Vous avez vu, là, il y a les centres d'IVG diminuent, il y a des résistances à l'avortement, tous ces réactionnaires qui relèvent la tête, on l'a vu au moment du mariage pour tous, etc. C'est un combat qu'on doit continuer à mener. Voilà, alors, les scientifiques sont là, mais nous, les femmes et les hommes de la société, on a cette responsabilité de continuer ce combat. Et vous savez, dans beaucoup de pays, les femmes continuent de mourir, hein, pour des avortements clandestins. Et la contraception n'existe pas. Voilà, et c'est notre combat à tous. Quand le RU486 est sorti, je me rappelle que la boîte répondait comme bruit aussi, que, bon, on en volait dans les hôpitaux. Hein, c'était comment, un produit comme ça, ça allait se voler, ça, n'importe qui allait faire n'importe quoi. Bon, alors, nous, évidemment, il faut une surveillance. Mais vous savez, même la pilule de lendemain qui est gratuite pour les lycéennes, moi j'ai été à la pharmacie il n'y a pas longtemps, il y avait une jeune fille devant moi qui en a demandé une. Le pharmacien lui a dit, allez chercher un verre d'eau au café d'à côté. Il a voulu qu'elle prenne le comprimé devant lui parce qu'il voulait être sûr qu'elle allait pas le refiler à une copine. Hein? Oui, mais il l'a laissé repartir sans lui donner l'adresse du planning familial, par exemple. Il lui a pas dit, mademoiselle, est-ce que vous voulez être conseillée sur la contraception, etc. Vous comprenez? Voilà, les centres de planning familial, il n'y en a pas non plus beaucoup. Alors, il y a ce que la science fait, mais il y a aussi ce que la société fait et les combats qu'on doit mener.
Je vais aller dans votre sens, parce que je suis très frappé également de voir le manque d'intérêt des jeunes générations sur un combat qui n'est pas fini, hein. Et je dirais, quelque part, on se rend compte, moi je baigne dedans de tout le temps, et on se rend compte que il y a en permanence des tentatives, que ce soit aux États-Unis mais également en Europe, de revenir en arrière. Donc ma recommandation pour les plus jeunes, c'est vigilance.
Eh bien, merci pour ces exposés. Merci à Georges Tosh et André Hulman.